Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
L'Europe et la pauvreté, quelle réalité? C'est l'objet d'une note de la Fondation Robert Schuman, qui est elle-même l'objet donc d'une discussion dans le cadre de cet éclairage, ici même à Radio Canal Académie. Avec nous pour en discuter justement les auteurs de ce rapport sur la pauvreté en Europe, Sarah Boucrel, bonjour.
Bonjour.
Et Pierre-Alain de Malray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous deux maîtres de conférences à Sciences Po et hauts fonctionnaires. D'abord, c'est une idée qui vous est venue à l'esprit, de quelle façon? Alors Sarah Boucrel, vous étiez volontaire pour traiter le sujet, c'est ça?
Alors en réalité, nous avons été contactés par la Fondation Schuman qui cherchait une ou plusieurs personnes pour traiter du sujet de la pauvreté. Sous l'angle en particulier de la question de la mesure, de savoir comment cette pauvreté était mesurée. Donc la Fondation cherchait des économistes et puis des gens avec un background un petit peu scientifique, puisqu'il y a une forte dimension statistique dans le sujet. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés embarqués dans cette aventure.
Alors
le sujet nous a plu.
On a préféré des personnes de formation scientifique à des personnes qui fréquentent les sciences humaines, si je puis dire.
Oui, enfin, on est un peu à la croisée des chemins. Il fallait les deux, en réalité. Il fallait, des gens qui avaient un certain goût pour cette matière, qui étaient familiers des questions d'administration publique, de la façon dont on conduit des politiques publiques, de la façon dont on les mesure et dont on apprécie leurs résultats. Et puis aussi, il fallait pas avoir peur des chiffres, puisque derrière tout ça, il y a quand même énormément de données. C'est un domaine qui, hélas, et on va peut-être en reparler, est très souvent réservé aux statisticiens.
Mais justement, est-ce que l'idée d'avoir énormément de chiffres et de devoir se coltiner énormément de chiffres n'est pas un peu contradictoire avec celle que la pauvreté, c'est d'avoir une dimension extrêmement humaine, difficilement mesurable par définition?
Ça, c'est l'éternel débat de est-ce que l'économie est une science ou pas. Je pense que c'est une question très, très profonde que vous soulevez. Il y a des tragédies humaines derrière la pauvreté. Il y a des parcours de vie qui sont brutalement interrompus, des situations d'extrême dénuement, et c'est toujours très sensible d'aborder ces thèmes autrement que sous un angle de sciences humaines ou de compassion, je dirais. L'originalité, entre guillemets, de notre approche et de l'approche des statisticiens, surtout, dont on synthétise les travaux, c'est d'essayer de dépasser cette dimension et de dire que derrière toute cette approche un peu compassionnelle de la pauvreté, il y a des réalités que l'on peut mesurer, chiffrer. La pauvreté plus ou moins intense dans un pays ou dans un autre, être pauvre dans un pays ne signifie pas exactement la même chose que d'être pauvre dans un pays faisant partie des nouveaux entrants, la Slovaquie par exemple. Être pauvre en France, ce n'est pas pareil qu'être pauvre en Slovaquie. Il y a des réalités que l'on peut essayer d'appréhender par cette approche statistique ou économique.
Avec des outils assez fiables.
Avec les outils les plus fiables dont on dispose aujourd'hui, je crois qu'on arrive à un niveau de fiabilité à peu près satisfaisant. Ce point est réunit pas un consensus absolu. Il y a des économistes qui discutent de la fiabilité des chiffres, de savoir si les politiques... On a eu un débat en France sur cette question il y a maintenant un an et demi, deux ans, sur est-ce que les statistiques de l'INSEE de la pauvreté reflètent effectivement la vraie pauvreté ou est-ce qu'il n'y a pas des biais. Donc, bon, la communauté, si vous voulez, des économistes et des statisticiens fait son travail de débat de la fiabilité de ces chiffres. Nous estimons que ça fait maintenant, 13 ans, 13-14 ans que ces chiffres existent, sont exploités, sont demandés. Nous estimons que le niveau de fiabilité est à peu près satisfaisant pour qu'on en parle.
Et si je peux ajouter quelque chose, je voudrais dire que le fait que ce sujet comporte une forte composante dimension de sciences humaines, et puis également le fait que la mesure de la pauvreté fasse l'objet de critiques, ne doit pas être un obstacle à l'utilisation des chiffres pour lutter contre un ennemi, il faut le connaître, cet ennemi.
Ce serait un scrupule de mauvaise aloi.
Ce serait un scrupule de mauvaise aloi. Pour pouvoir lutter contre la pauvreté, il faut essayer de comprendre quelle réalité elle recouvre. Et les chiffres sont un outil essentiel dans l'appréhension de ce qu'est la pauvreté.
Mais alors, le mot pauvreté et pas misère. Vous faites la distinction entre les deux ?
Absolument. On y reviendra probablement très bientôt, mais la pauvreté, telle que nous l'entendons nous et telle que l'entendent les autorités européennes qui s'intéressent au sujet, répond à une définition stricte, objective, fondée sur des enquêtes, avec des définitions tout à fait objectives. La misère, qu'est-ce que c'est exactement ? On sait la reconnaître. On sait également quand elle n'est pas là, mais il y a des situations à flou, des zones grises, on serait bien en peine de pouvoir les identifier, je pense.
Sarah Boucrel, ces outils de mesure, précisément, vous parlez de la pauvreté au pluriel, déjà. Les définitions que vous en donnez ne sont pas des définitions statiques, figées, il n'y a pas une définition de la pauvreté, vous avez un ensemble d'outils qui vous permettent de cerner la question.
Tout à fait. Effectivement, lorsqu'on parle de pauvreté, Pierre-Alain l'a dit, l'Union européenne a adopté des définitions précises de ce qu'est la pauvreté. Il faut savoir ce que le mot recouvre. Et l'on se rend compte, si l'on s'intéresse à la mesure de la pauvreté, que plusieurs options sont offertes aux statisticiens. On peut d'abord parler de pauvreté absolue, c'est-à-dire qu'on peut être pauvre par rapport à un seuil fixe de revenus. Le meilleur exemple d'un seuil de pauvreté absolue, c'est celui qui est fixé par la Banque mondiale et considéré comme pauvre l'individu qui vit avec moins de $2 par jour.
Donc définition de base à l'échelle planétaire.
Voilà, tout à fait. Définition de base qui, on s'en rend bien compte, n'a pas de sens pour un pays développé comme la France. Je ne pense pas qu'il soit possible de vivre avec $2 par jour en France. Donc d'un côté, cette pauvreté absolue. De l'autre côté, on peut également parler de mesures relatives de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on est pauvre par rapport au niveau de vie atteint par les individus avec lesquels on vit, par rapport à un niveau de vie moyen de la société dans laquelle on s'insère.
Et là, bien sûr, dans l'Union européenne, ça prend un relief particulier avec les nouveaux entrants, les pays plus ou moins développés, les pays du Nord, pays du Sud. Là, on entre dans toutes les disparités de la notion. Là.
Oui, absolument. Sur la question de la mesure, qui est vraiment fondamentale et qui soulève des questions à la fois techniques et puis même philosophiques. Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre ? Sarah vient de le résumer. Ça renvoie aussi à un débat qui oppose d'une certaine manière l'Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, les indicateurs de pauvreté et les politiques de lutte contre la pauvreté s'attachent à un seuil absolu. C'est ça, absolu. On est pauvre quand on n'a pas les moyens minimaux de subsister. Alors, on fait des études très sophistiquées sur le nombre de calories qui sont nécessaires pour survivre jour après jour, sur en fonction du prix du logement, le loyer minimum pour vivre. Et il y a la définition relative. L'Europe, clairement, depuis les années 70, a fait un choix, qui est un choix de mesure, mais qui est aussi un choix politique, qui est de dire, nous, en Europe, nous allons mesurer la pauvreté de façon relative. Relative, ça veut dire que le taux de pauvreté, les indicateurs de pauvreté, sont à la fois un reflet de la pauvreté, mais aussi un reflet des inégalités. C'est-à-dire que, finalement, une société où tout le monde aurait les moyens minimum de subsistance et il y aurait de fortes inégalités, ce serait un pays où il y aurait un fort taux de pauvreté. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, l'Europe a fait ce choix-là. La date à retenir, hein, c'est 2001. Le Conseil européen de Laeken qui a défini de façon extrêmement stricte, extrêmement précise, que sera considéré comme pauvre dans l'Union européenne tout individu dont les revenus se situent en dessous de 60% du revenu médian de la population. Donc, on sent bien par là que on est pauvre par rapport à ses voisins, par rapport à ses concitoyens, et on n'est pas pauvre indépendamment de la distribution des revenus. Donc, on prend le seuil de 60%, on aurait pu en choisir un autre. Par exemple, en France, et cela, ça pose aussi débat, ça suscite un débat, on prend le seuil de 50%. L'INSEE, alors c'est pour ça qu'on peut pas comparer les statistiques de la pauvreté qui sont issues. Pour ceux qui ont la curiosité d'aller sur le site de l'INSEE, on trouve des taux de pauvreté qui sont calculés à 50% du revenu moyen, enfin du revenu médian de la population, et à l'Union européenne, c'est 60%. Un dernier point sur les questions de mesure, qui est intéressant, c'est qu'il existe des formules alternatives. Donc là, on vient de parler de la pauvreté monétaire. Donc c'est forcément ce qui est le plus objectif, ce qui est le plus facile à appréhender, parce que bon, tout ça est évidemment très compliqué en pratique, mais il faut demander aux gens combien ils gagnent. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les gens ne déclarent pas facilement combien ils gagnent.
Même plus facile aux États-Unis.
Voilà. C'est ce qu'on s'aperçoit dans les pays du Sud, par exemple, il y a toujours une suspicion quant au caractère purement statistique de l'enquête et non pas fiscale. Donc, il suffit de demander aux gens combien ils gagnent pour construire ce qu'on appelle des panels. Donc, année après année, on suit des cohortes de population et on regarde l'évolution, comment se situent les revenus les uns par rapport aux autres et les évolutions. Il y a une autre école de pensée qui ne s'oppose pas à la première, mais qui, on croit, lui est largement complémentaire. C'est de s'intéresser, comme dit Amartya Sen, non pas seulement au contenu des portefeuilles, mais aux conditions de vie. C'est-à-dire que la pauvreté dépasse, quand on essaye de l'appréhender de façon, je veux dire, objective, avec des enquêtes, de façon scientifique, ça dépasse simplement l'étude des revenus de la population. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on peut très bien avoir des revenus très faibles et un patrimoine très important, par exemple. Et puis, les revenus monétaires d'un ménage, ce n'est pas l'essentiel de ses ressources. Enfin, ça peut ne pas être l'essentiel de ses ressources. Il peut y avoir du travail domestique, on peut être dans un environnement agricole et effectuer ce qu'on appelle l'autoproduction. Ça arrive beaucoup en Russie, par exemple. On s'aperçoit que finalement, les ménages russes, et même dans les villes, dans les zones urbaines, sont finalement beaucoup moins pauvres que ce que leur revenu pourrait laisser penser, parce qu'il s'est développé une pratique relativement importante de culture, on cultive des parcelles de terre qui sont un peu éloignées de la ville, et donc on crée comme ça des moyens de subsistance importants. Tout ça pour dire que ça dépasse assez largement la question du revenu. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour aborder cette pauvreté qui échappe au revenu? C'est évidemment, on le sent bien, très compliqué, très subjectif. Bon, les pays européens se sont mis d'accord, et je trouve un effort qu'il faut souligner, qu'il faut saluer, pour définir un certain nombre de critères qu'ils appellent, qui sont constitutifs de la pauvreté d'existence, la pauvreté non monétaire. Alors, parmi ces critères, on trouve une série de critères qui ont trait à l'alimentation. Est-ce que la question que l'on pose, typiquement, dans le panel communautaire des ménages, c'est une enquête qui est conduite par Eurostat, la question que l'on pose, c'est: est-ce que vous avez les moyens d'avoir un repas tous les deux jours avec de la viande ou du poisson? Est-ce que vous avez les moyens d'avoir ça?
Oui, donc c'est très précis, ça touche à la vie quotidienne des gens.
C'est très concret. Donc il y a une série de questions sur l'alimentation, il y a une série de questions sur le logement. Est-ce que vos fenêtres isolent correctement du froid en hiver? Est-ce que vous avez un WC à l'intérieur de votre appartement, vous êtes obligé d'aller à l'extérieur dans le couloir ou bien à l'extérieur même de votre habitation? Ce sont des choses extrêmement concrètes comme ça. Est-ce que vous avez des moyens de locomotion? Et ça dépasse même ce cadre des critères tout à fait essentiels pour avoir une vie satisfaisante, puisque on touche aussi à la sphère sociale, à la sphère très intime des foyers et des individus, puisqu'on leur demande aussi: est-ce que vous avez les moyens de faire des cadeaux, par exemple? Est-ce que vous avez les moyens de recevoir parents et amis une fois par mois? Donc, on sent bien à travers toutes ces questions que c'est à la fois, on essaye de l'aborder de façon scientifique, rationnelle, et puis en même temps, ça revoit à des représentations sociales. C'est-à-dire que c'est quand même une question politique de savoir si quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire de cadeaux est pauvre. Bon, voilà le choix qu'a fait l'Europe, ça fournit des informations tout à fait intéressantes sur la pauvreté en Europe.
Cette masse de données, vous, pour travailler toute cette quantité d'informations, ça représente, j'imagine, quand même une certaine complexité, parce qu'il va falloir séparer ce qui relève de la statistique de la représentation sociale. Est-ce que les choses apportent une cohérence? Est-ce que ça amène immédiatement un point de vue cohérent, ou est-ce qu'il faut un effort de l'intelligence pour arriver à rassembler toutes ces données? Est-ce que toutes ces données arrivent à se croiser logiquement, Sarah Boukrel?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la réponse est oui. Donc on se retrouve avec cette foule de données qui portent à la fois sur le revenu et puis sur les conditions de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que le tableau avec lequel on se retrouve à la fin présente un ensemble cohérent.
Les courbes se suivent, si vous deviez dessiner tout ça?
Alors, les courbes ne se suivent évidemment pas exactement, mais ce dont on se rend compte, c'est que le tableau que l'on peut dessiner à partir d'une appréhension de la pauvreté sous un angle monétaire et relatif, qui est l'angle choisi par l'Union européenne, on trouve une image qui ressemble énormément, qui coïncide très largement avec celles que l'on pourrait dessiner à partir de données sur les conditions de vie des individus. Peut-être très rapidement, ce tableau, quel est-il ? Donc, au sein de l'Union européenne, à la fin de l'année 2003, 16% de la population était considérée comme pauvre au sens des indicateurs européens. C'est-à-dire que 16% des citoyens européens vivaient avec un revenu inférieur à 60% du revenu médian du pays dans lequel ils vivaient.
Des 25 pays.
Des 25 pays de l'Union européenne.
72 millions.
72 millions de pauvres. Voilà. Donc, effectivement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de pauvres. Maintenant, ce chiffre moyen...
Un pauvre en Suisse, est-il un riche dans un autre pays?
Alors, la Suisse ne fait pas partie de notre échantillon.
Si on devait prendre le cas extrême. Le Luxembourg,
Luxembourg,
par exemple.
Voilà.
Un pauvre Luxembourg.
Pour parler de l'Union européenne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une approche européenne de la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pauvre européen n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le pauvre européen n'existe pas ? Ça veut dire qu'on est pauvre dans un pays. On n'est pas pauvre dans l'Europe. Quand on parlait tout à l'heure du fait que c'est un indicateur d'inégalité et qu'on est pauvre par rapport à une distribution de revenus dans une circonscription géographique donnée, les gouvernants européens ont fait le choix de dire « Pour l'instant, les représentations sociales sont telles qu'il n'y a pas, que d'une certaine manière, on n'est pas pauvre en France comparé aux revenus des Pays-Baltes, par exemple. On n'est pas pauvre en France comparé aux revenus des Irlandais ou aux revenus des Anglais. On est pauvre en France comparé aux revenus des Français. Donc, premier élément, le pauvre européen n'existe pas et on se compare aux revenus médians de son pays. Hein, on ne se compare pas aux revenus médians de l'Europe. Alors ensuite, tout ça nous donne un tableau extrêmement intéressant des pays, du taux de pauvreté des différents pays. Alors Sarah l'a dit, en moyenne on est à 16%, c'est-à-dire en moyenne en Europe, il y a 16% de la population active qui se situe sous le seuil de son propre pays, sous le seuil de pauvreté de son propre pays. Alors il y a des disparités très grandes, c'est la question que vous posez. En France on est à 12%. Donc, on a un taux de pauvreté qui est relativement inférieur à la moyenne. Il y a des pays où on se situe bien au-delà. Les pays où la pauvreté est la plus élevée, c'est la Slovaquie et l'Irlande. À l'autre extrémité, alors eux se situent environ 21%. À l'autre extrémité.
En dépit du décollage économique de l'Irlande.
Oui, alors on va y revenir parce que ça, c'est très particulier. Et à l'autre extrémité du spectre, vous le disiez, le Luxembourg, où là, on a un taux de pauvreté très faible. Enfin, le Luxembourg est de façon assez étonnante, la République tchèque.
8%.
Alors, 8% à peu près pour les deux. Donc, on a une disparité assez forte. Mais le point que nous voulons souligner, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la mesure de ce taux. Parce que ça donne un taux, comme je vous le disais, par rapport à un pays donné. Il faut aller un peu plus loin et regarder le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, souvenez-vous, c'est le seuil en dessous duquel on est considéré comme pauvre au sens des indicateurs. Eh bien, ces seuils varient de pays à pays. Et être pauvre au Luxembourg, par exemple, pour prendre le pays où le seuil de pauvreté est le plus élevé, ça signifie être 6 fois plus riche, avoir un train de vie 6 fois supérieur aux pauvres slovaques. Par exemple, on revient sur l'idée que la pauvreté est une notion relative qui s'apprécie pays par pays. Et donc, il faut avoir les deux indicateurs en même temps, si vous voulez. Il faut savoir dans un pays si on a un fort taux d'inégalité, un fort taux de pauvreté, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond ? Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond être pauvre au Luxembourg ? Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond être pauvre ? Pour prendre des pays de l'Europe des 15, qui sont un peu plus proches peut-être les uns des autres, être pauvre en Allemagne, c'est avoir, enfin, l'individu que c'est pour être tout à fait précis, l'individu qui se situe au seuil de pauvreté, c'est-à-dire à la frontière entre la population qu'on considère comme pauvre et le reste de la population, il a un train de vie, un pouvoir d'achat qui est 2 fois supérieur au même individu au Portugal. En clair, le pauvre allemand est 2 fois plus riche que le pauvre portugais. Voilà.
On marque une première pause. L'Europe L'Europe et la pauvreté, quelle réalité ? Donc Sarah Boucrel et Pierre-Alain de Malraix, qui pour nous dans cette émission Éclairage, justement nous éclairent précisément sur la réalité de la pauvreté en Europe, avec force statistiques qu'ils ont étudiées, dépouillées, et on voit que les notions sont loin d'être évidentes, puisqu'il faut croiser à la fois les représentations sociales et les chiffres bruts. 16%, c'est le chiffre en moyenne dans l'Union Européenne, 72 millions de pauvres, c'est ce que vous nous avez dit, mais tout cela doit aussi être mis en regard, certains pays par rapport aux autres, hein, on est deux fois plus riche quand on est pauvre en Allemagne que le pauvre portugais, un pauvre allemand est deux fois plus riche qu'un pauvre portugais. On peut aussi dégager, si vous le voulez bien, des typologies par rapport à ce qu'on a dit justement. Est-ce qu'on peut mettre en quelque sorte les pays dans une certaine catégorie par ordre de certains critères ?
Oui, tout à fait. Alors, de manière évidemment relativement schématique, si on s'intéresse d'abord à l'Union européenne pré-élargissement, c'est-à-dire l'Union européenne à 15 membres, on peut en gros distinguer quatre catégories de pays européens. Il y a tout d'abord le pays européen, je dirais, bon en tout, c'est-à-dire caractérisé par un niveau de prospérité élevé, c'est-à-dire un niveau moyen de revenu par tête élevé, par des inégalités faibles et par un taux de pauvreté faible également. Ces pays, ce sont le Luxembourg et les pays nordiques, notamment. À l'opposé, on peut distinguer une classe de pays européens qui seraient les mauvais élèves, c'est-à-dire des pays caractérisés par un niveau de prospérité faible comparé à la moyenne européenne, des inégalités et un taux de pauvreté élevé. Ces pays, ce sont notamment le Portugal, la Grèce, les pays du Sud. On peut distinguer une troisième catégorie qui sont notamment les pays anglo-saxons, qui eux sont caractérisés par une situation de revenus élevés, une prospérité élevée, mais des inégalités fortes et un taux de pauvreté important. Enfin, une quatrième catégorie à laquelle la France appartient, qui sont les gros États membres de l'Union européenne qui sont, je dirais, proches de la moyenne, notamment.
Ils sont un peu tous là à la fois.
Voilà, la France et l'Allemagne qui sont moyens en termes de revenus par tête, moyens en termes d'inégalité et moyens en termes de pauvreté. Si on s'intéresse maintenant très rapidement aux nouveaux entrants, on se rend compte qu'on peut ranger ces pays également dans les mêmes catégories. Voilà, donc la grille d'analyse utilisée pour les États, les 15 États membres de l'Union européenne pré-élargissement peut également servir pour ces pays.
En revenant sur un chiffre que vous avez donné tout à l'heure, comment expliquer que la République tchèque soit au taux de 8%, équivalent à celui du Luxembourg, alors qu'elle n'a pas profité, bien sûr, des mêmes largesses et du même statut économique que Luxembourg ?
On touche au caractère relatif, une fois de plus, caractère relatif de la pauvreté. La République tchèque est un pays où, comme chacun sait, le niveau de vie est plutôt plus faible, niveau de vie moyen, général, de la population, ça se voit tout de suite quand on y va, est plus faible que au sein de, relativement plus faible au sein, qu'au sein de l'Europe des 15. Et pourtant, il y a peu d'inégalités. Et donc, le taux de pauvreté étant aussi tel qu'on l'a choisi, tel qu'on l'a défini, une mesure d'inégalité, eh bien, on se trouve qu'il y a autant d'inégalités en République tchèque qu'au Luxembourg, ce qui donne à peu près 8% de pauvres dans ces deux pays-là. Mais quand on regarde ce que ça veut dire qu'être pauvre, qu'être considéré comme pauvre, on s'aperçoit que le pouvoir d'achat, si vous voulez, du pauvre, hein, pour nous exprimer en ces termes, de la République tchèque, est inférieur au pouvoir d'achat du pays le plus pauvre de l'Europe des 15. Hein, est inférieur au pouvoir d'achat du Portugal, par exemple. Donc, voilà ce que ça veut dire.
Donc, c'est toujours une vision, en fait, un peu en trompe-l'œil, hein, chaque fois.
Oui, enfin, disons que c'est un trompe-l'œil qu'il faut décrypter.
Voilà.
Il ne faut pas en déduire qu'on ne peut pas tirer de conclusion. Ce n'est pas exact. Mais qu'il faut lire ces statistiques avec prudence et qu'il y a bien une différente typologie d'États, comme Sarah vient de le rappeler, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Europe continentale. Et puis, cette catégorie très particulière qui renvoie à des choix politiques et économiques très différents de ceux qui ont été faits en Europe continentale, qui sont les deux pays anglo-saxons, l'Irlande et le Royaume-Uni, où là, on a du mal à les classer en Europe, parce que, à la fois, bon, il y a un niveau de vie très élevé, Hein, je rappelle que l'Irlande a un niveau de vie supérieur à la France. Sa richesse par habitant a doublé en 10 ans. C'est une réussite économique totalement spectaculaire.
Grâce à l'Union européenne.
L'Union européenne aussi a une politique fiscale très agressive, mais aussi grâce à l'Union européenne. Alors, une réussite économique spectaculaire, une forte richesse par habitant et des inégalités qui sont supérieures à ce que l'on tolère en Europe continentale. On est autour entre 18 et 20 dans les deux pays. Mais alors, ce qui est important, c'est qu'on a des inégalités, mais que cette richesse moyenne et ce seuil de pauvreté, si vous voulez, le seuil par rapport auquel on définit la pauvreté, augmente d'année en année et beaucoup plus dynamique que ce que l'on voit en Europe continentale. C'est-à-dire que être pauvre en Irlande en 2006, par rapport à ce que ça voulait dire être pauvre en Irlande en 1998, ça n'a plus rien à voir. Si vous voulez, les pauvres d'aujourd'hui en Irlande, enfin en tout cas l'individu qui est situé à la frontière, encore une fois, de la pauvreté et de la non-pauvreté, est beaucoup plus riche aujourd'hui que ce qu'il était il y a 7 ans. Donc une dynamique, si vous voulez, beaucoup plus forte, qui s'accompagne en effet d'inégalités qui sont plus fortes qu'en Europe continentale.
Pour la France, est-ce que vous tiendriez le même raisonnement ? Parce que contrairement à une idée reçue, les inégalités, semble-t-il, ne se sont pas accrues en France.
Non, en effet. C'était d'ailleurs une surprise. Pour tout vous dire, on ne s'attendait pas à trouver ce résultat. Enfin, je précise que ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, encore une fois. Nous sommes plongés dans cette immensité, cette mer de travaux statistiques existants, mais nous n'avons pas nous-mêmes travaillé les données, nous avons synthétisé les travaux existants. Bref, l'une de nos surprises, ça a été effectivement de voir l'évolution de la pauvreté et par rapport à d'autres indicateurs que l'on commente beaucoup dans le débat public, qui sont le nombre de mal logés, par exemple, qui augmente en France, le nombre de bénéficiaires des minima sociaux, qui est une autre forme pour définir la pauvreté.
1,2 million
voilà,
pour le RMI.
Ça, pour le RMI, exactement. Certains appellent ça la pauvreté administrative. Donc on pourrait presque définir une nouvelle forme de pauvreté à côté de la pauvreté monétaire et la pauvreté non monétaire qu'on a détaillée tout à l'heure. Il y a la pauvreté administrative, pourquoi pas. Mais en tout état de cause, l'évolution des chiffres qui concernent la France n'est pas défavorable. Les indicateurs, sur le long terme, je ne parle pas des 2-3 dernières années, je vous parle sur 10 ans, la pauvreté, c'est plutôt la pauvreté a plutôt décru.
Hein, alors là, on va à l'encontre quand même d'une image véhiculée à la fois par les médias et présente dans le débat public.
Tout à fait.
Vraiment surprenant.
Pourquoi on peut se hasarder à demander pourquoi. Bien loin de nous l'idée, la prétention de donner une réponse, incontestable. Mais bon, on a des taux de transferts sociaux qui sont des transferts sociaux, une protection sociale qui est très importante en France et qui, on peut le penser, réduit considérablement notre taux de pauvreté.
Donc, ça serait la prise en charge par l'État qui, en quelque sorte, fausserait un peu les statistiques.
Si vous voulez, la protection sociale, la sécurité sociale est là pour ça. Est là pour éviter que le revenu se dégrade de façon insupportable. Donc, quand on regarde ce que les transferts sociaux, le rôle, si vous voulez, on peut peut-être en venir justement aux politiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer, pour combattre cette pauvreté? Parmi toutes les politiques que l'on peut imaginer pour réduire la pauvreté, promouvoir la croissance, parmi toutes les politiques que l'on peut soutenir le pouvoir d'achat, réduire le chômage, parmi toutes les politiques que l'on peut imaginer pour réduire la pauvreté, il y en a une qui se distingue de très loin du lot comme étant la plus efficace dans les chiffres, c'est les transferts sociaux, la protection sociale. Un groupe d'économistes a étudié cette question à l'échelle de l'Union européenne, par exemple. Si on prend une situation fictive où il n'y aurait pas de transferts sociaux, il n'y aurait pas de protection sociale, il n'y aurait pas de sécurité sociale, on serait à environ 25% de taux de pauvreté en Europe. Or, on est à 16%. Donc vous voyez que par le simple jeu des transferts sociaux, on passe d'un taux de pauvreté de 25% à un taux de pauvreté d'environ 16% en Europe. Donc il y a un rôle très considérable des transferts sociaux et on peut imaginer que...
C'est-à-dire que ce sont des pays comme la France et la Suède, par exemple,
les pays nordiques,
qui font descendre le taux de pauvreté par l'encadrement.
Pas seulement tous les pays.
Système français n'est quand même pas à la mode dans toute l'Union européenne.
Non, mais le rôle des transferts sociaux est majeur, là je pense qu'il faut insister là-dessus, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, y compris les pays anglo-saxons qui sont souvent désignés comme moins redistributifs que les pays continentaux comme la France ou l'Allemagne. Dans l'ensemble de ces pays, les transferts sociaux jouent un rôle majeur dans la réduction du taux de pauvreté.
Donc ce serait une apologie un petit peu du système redistributif que vous feriez comme conclusion de vos travaux
non.
ou pas
non, non, parce qu'il faut distinguer le court terme et le long terme. Et clairement, si de façon totalement instantanée, les transferts sociaux, la protection sociale est le vecteur le plus puissant, et on peut le concevoir sans peine, pour réduire les inégalités et la pauvreté, eh bien, il s'accompagne des conséquences que l'on sait, des prélèvements sur l'économie,
qui affaiblissent les dynamismes économiques,
de salaires minimums qui peuvent être importants, de minima sociaux qui également peuvent coûter et peser sur les finances publiques. Et donc, tout cela constitue bien souvent des freins, des obstacles à un développement économique qui pourrait être plus dynamique.
J'aimerais qu'on passe à l'action de l'Union européenne en tant que telle. Vous avez parlé tout à l'heure du sommet de Laeken 2001. Mmh. C'est une prise de conscience assez tardive quand même du phénomène de la pauvreté, Sarah Bouquerel.
Alors, ça peut...
Avant, on n'y pensait pas.
Alors là, justement, je dois vous contredire.
Mais vous êtes là pour ça.
Voilà, il est tout à fait erroné de dire que l'Union européenne a attendu longtemps avant de s'intéresser à la pauvreté. On vient déjà de tordre le cou à une première idée reçue, qui est l'idée suivant laquelle la construction européenne aurait engendré une augmentation des inégalités. Ça, nous le disons très clairement dans notre note, nous venons de le répéter, ça n'est pas vrai. Eh bien, il est également faux de dire que l'Union européenne ne s'intéresse pas à l'exclusion sociale, ne s'intéresse pas à la pauvreté. La pauvreté fait partie des préoccupations de longue date de l'Union européenne.
Depuis l'origine ?
Depuis l'origine, je dirais oui. Donc, je vous propose de revenir au tout début de la construction européenne, à la signature du traité de Rome. En 1957, eh bien, le traité, enfin, quelle est l'idée de base de la création de la communauté économique européenne? Eh bien, l'idée de base, c'est de dire qu'en initiant la création d'un marché commun, d'un marché au début de 6 pays, eh bien, c'est l'idée que le marché commun engendrerait le progrès économique et le progrès social.
Enrichirait donc, tous les membres qui feraient partie de ce marché, tout simplement, et que tout le monde en profiterait.
Voilà, que le marché commun serait le gage de la prospérité partagée par tous les citoyens de l'Union européenne, et que cette prospérité permettrait de garantir la paix en Europe, et notamment la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Donc, dès le départ, la construction européenne conserve à l'esprit l'idée de progrès social. Alors, certes, il est vrai que les politiques sociales ont avant tout été considérées comme un moyen d'atteindre d'autres objectifs, notamment, par exemple, via la suppression des barrières à la mobilité des travailleurs, qui était une façon de promouvoir l'achèvement du marché unique. Donc, politique sociale comme moyen plutôt que comme but.
En soi, oui.
Voilà. Mm-hmm. Mais quand même, dès les années 70, la pauvreté a fait partie des préoccupations européennes.
Pourquoi? Et pourtant, vous écrivez compétences restreintes. Elle ne s'est pas donné les moyens de lutter contre la pauvreté, ou plutôt elle l'a laissé aux États-nations?
Voilà, ça n'est pas que l'Union européenne ne s'est pas donné les moyens, c'est qu'elle n'a pas souhaiter intégrer dans le champ de ses compétences exclusives ou partagées la lutte contre l'exclusion sociale. Pourquoi ? Il y a une raison extrêmement forte à cela, et je pense que nous pouvons tous la comprendre. Chaque État membre est extrêmement attaché à son modèle social. Nous n'avons pas la même perception en France de ce qui est acceptable en termes d'inégalité, de répartition des revenus, de redistribution. Nous avons des idées différentes de ce qui fait l'objet d'un consensus dans un pays comme le Royaume-Uni, par exemple.
Et est-ce qu'à votre avis, l'Union européenne y réfléchit un jour à opter pour un modèle social précis qui ferait peut-être la synthèse entre une sorte de voie un peu intermédiaire. Là, on s'avance peut-être un petit peu dans le temps, mais est-ce que la réflexion en est là aujourd'hui de se dire il faudrait peut-être que l'Europe se donne un cadre commun là-dessus ?
Ça, je ne le crois pas réellement. Ce à quoi on a assisté tout au long des années 70, 80, 90, c'est à l'émergence de critères sociaux communs à minima, c'est-à-dire la reconnaissance des droits élémentaires à des ressources suffisantes pour vivre, du droit élémentaire à l'assistance sociale. Maintenant, l'Union européenne aujourd'hui s'est dotée d'un instrument de lutte contre la pauvreté qui répond au nom un petit peu barbare de méthode ouverte de coordination.
Traduction.
Voilà, les MOC. Exactement.
Ne vous moquez pas.
Ne vous moquez pas, exactement. Eh bien, ces MOC se sont construites vraiment sur l'idée extrêmement forte qu'il était hors de question de remettre en cause les compétences exclusives des États membres en matière de protection sociale, de lutte contre l'exclusion.
Donc on va se coordonner, ça veut dire quoi le mot coordination là ?
Alors, vous parlez au futur, en principe, la coordination ouverte est déjà une réalité.
On le fait sans le savoir.
D'accord.
Voilà, alors tout le problème, on va y venir, c'est justement qu'on le fait sans le savoir, c'est-à-dire sans que les citoyens de l'Union européenne
alors, par exemple,
le sachent. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est que la méthode ouverte de coordination ? Donc, juste avant d'arriver à ce point, je pense qu'il faut peut-être dire deux mots sur ce qui a poussé à la création de la méthode ouverte de coordination. Eh bien, la méthode ouverte de coordination, ça peut contre l'exclusion sociale, elle a été mise en place lorsque l'Union européenne a adopté ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, la stratégie de Lisbonne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'objectif tout à fait modeste de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus dynamique et la plus compétitive au monde d'ici 2010. Donc, on peut se demander ce que cet objectif qui semble purement économique peut avoir à voir avec la pauvreté. Eh bien, justement, le constat qui a été fait, c'est que pour rendre l'Union européenne la plus dynamique possible en termes économiques, il était nécessaire d'améliorer les déterminants de sa croissance potentielle, notamment d'améliorer la qualité de ses travailleurs. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'amélioration de la qualité des travailleurs européens passait par la lutte contre les inégalités.
D'où donc les MOC, alors ?
D'où la méthode ouverte de coordination. Alors, pour l'inclusion sociale...
C'est là
sociale,
où l'est, d'ailleurs. C'est là où l'est. Alors, c'est la méthode ouverte, ça s'appelle comme ça.
Ce sont les MOC. Le terme de MOC, donc, je suis désolée d'employer un langage un peu technocratique. Donc, le terme de MOC désigne un ensemble de procédures, ne désigne pas une politique consacrée à un domaine précis. Il existe une MOC qui s'intéresse aux politiques de l'emploi, qui est la MOC fondatrice, qui existe depuis 1997. Il existe ensuite une méthode ouverte de coordination, une MOC, qui est dédiée à la lutte contre la pauvreté. L'Union européenne a également mis en place une MOC dédiée au système de retraite, une MOC pension, une MOC formation. Donc vous voyez, les MOC sont plutôt une appellation générique qui traite de tout ce qui est coordination dans le domaine
c'est
de politique sociale.
C'est une case
sociale.
Et on met ce que l'on veut
voilà.
Dedans.
Donc une MOC, qu'est-ce que c'est ? Le principe de la MOC, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord, donc la MOC repose sur le principe de la planification pluriannuelle. Là encore, ça peut sembler quelque chose de technocratique et barbare. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire qu'on demande aux États membres de planifier l'ensemble de leur politique sociale, donc ici en matière de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'on leur demande de transmettre aux institutions européennes, à la Commission, un programme, c'est-à-dire des objectifs chiffrés de préférence et des moyens d'atteindre ces objectifs. Et là, alors, on rejoint ce qu'on a dit en première partie, c'est que un aspect essentiel de la méthode ouverte de coordination, ce sont la création d'indicateurs communs. Ce qui explique que l'Union européenne se soit dotée d'outils de mesure communs, c'est justement cette idée de de fixation d'objectifs. Maintenant, au sein de l'Union européenne, on parle tous de la même chose. C'est très important.
Pour combattre l'ennemi, il faut le connaître. Et voilà. Pour le connaître,
qu'on parle tous de la même chose. Et,
s'il n'y avait pas l'Union européenne, s'il n'y avait pas tous ces efforts qui ont été impulsés par les chefs d'État, s'il n'y avait pas Eurostat, pour ne pas le nommer, qui travaille de façon assez intense sur la question, on ne connaîtrait pas tout ce qu'on a dit en première partie. On ne connaîtrait pas de façon... On ne pourrait pas comparer les statistiques de la pauvreté en France, en Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, comme on vient de le faire.
Il y a des
travaux nationaux, mais qui ont des méthodologies différentes. Là, on a pris des statisticiens de tous les pays européens, on les a mis ensemble, on a secoué le tout, et il en est sorti. C'est cette approche commune, mais un instrument qui est le panel communautaire des ménages, qui ça veut dire, c'est que ce sont des institutions européennes qui posent les questions dont on a parlé tout à l'heure, qui posent les questions sur les revenus et qui les moulinent et qui font émerger ces indicateurs. Donc, la première contribution de l'Europe, c'est en termes de connaissances. On connaît beaucoup mieux le phénomène, et au-delà même de ce qu'on a dit, on aurait pu développer, mais on connaît les taux de sortie de la pauvreté, la dynamique de la pauvreté. Est-ce qu'on est pauvre plus longtemps en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni, quelle proportion de la population ça touche? Est-ce que être pauvre, quand on regarde la population qui est passée par la pauvreté pendant 4 ans, est-ce que c'est toujours les mêmes qui sont pauvres, ou est-ce qu'au contraire, il y a une rotation très, très importante au sein de la... Des questions qui sont fondamentales pour ceux qui veulent mettre en place des politiques économiques qui visent à éradiquer la pauvreté. Enfin bref, tout ça pour dire que la première contribution, c'est la connaissance du phénomène, et c'est à l'Europe très clairement qu'on la doit. Hein.
On marque une seconde pause. Une note de la Fondation Robert Schuman fait l'objet donc de cet éclairage à Canal Academy avec Sarah Bouquerel et Pierre-Alain de Malleret. L'Europe et la pauvreté, quelle réalité? On s'aperçoit justement, c'est ce que vous disiez à l'instant, Pierre-Alain de Malleret, que c'est grâce à l'Europe qu'on dispose de toute une source, de toute une base de données qui nous permet aujourd'hui de mieux comprendre la pauvreté et de suivre la pauvreté quasiment à la trace aujourd'hui. Hein. On peut suivre à la trace l'évolution du phénomène. L'EMOC, donc terme un petit peu barbare, hein, méthode ouverte de coordination, ça marche, ça? Vous aviez plus ou moins quelques réticences, quelques réserves?
Alors, oui, nous avons quelques réticences, même des réticences assez fortes.
Un petit regard critique.
Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on pensait que ça allait marcher, les MOOC? On pensait que ça allait marcher parce que, d'une part, le fait d'expliquer aux autres États membres ce que l'on fait, le fait de se fixer des objectifs et de rendre compte aux autres États membres de l'avancement de l'atteinte de ces objectifs, on pensait que ça permettrait aux États membres, si vous voulez, de se mettre la pression. Et que donc cette mise sous pression réciproque permettrait d'initier une convergence, évidemment vers le mieux vivant, c'est-à-dire vers les meilleurs élèves en termes de pauvreté. Donc une convergence d'abord, et on pensait également que les MOOC fonctionneraient comme une sorte, pour dire les choses très simplement, de supermarché des bonnes pratiques, c'est-à-dire en voyant ce qui marche dans un État membre, se dire « bon ben tiens, le Royaume-Uni, l'Espagne a mis en œuvre telle politique, il semble que ça ait marché, je vais mettre à mon tour en œuvre cette politique chez moi ». Alors ça n'a pas vraiment marché, pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que c'est ce qui justifiait au départ le fait que les États membres conservent une compétence exclusive en termes de politique sociale, c'est que les États membres ont chacun des consensus sociaux qui sont très différents les uns des autres. Donc la convergence spontanée, à la base, on peut penser que finalement, c'est une illusion. Deuxième élément, et là, il existe une véritable voie d'amélioration. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la MOOC, dont vous n'avez jamais entendu parler dans les médias, relève exclusivement de la discussion entre experts. C'est-à-dire que la genèse des MOOC ne sort pas en France des ministères, ne sort pas de l'administration. La mise sous pression, elle ne se fait en réalité pas, puisqu'il n'y a pas
de politique,
il n'y a pas de mobilisation des citoyens, et nos dirigeants ne rendent pas de compte à la nation sur la mise en œuvre de leurs plans nationaux d'action contre la pauvreté.
Alors, c'est ce que vous dites quand vous parlez, par exemple, dans les voies d'amélioration, élaboration des plans nationaux d'action d'inclusion sociale, ça voudrait dire de mettre sur le débat public ces mots qui restent dans les dossiers des ministères.
Ça veut dire mettre sur la place publique la question des politiques de la lutte contre la pauvreté, et notamment, ça veut dire, pour les gouvernements, prendre des engagements fermes, des engagements chiffrés en termes de réduction de la pauvreté, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui en France.
Prendre des engagements devant qui ? L'Union européenne ?
Alors, à la fois devant l'Union européenne, mais avant tout et surtout devant les citoyens français. Certains États membres prennent ces engagements. Si on prend l'exemple, par exemple, du Royaume-Uni, eh bien, Tony Blair avait fait de la lutte contre la pauvreté des enfants un de ses thèmes de campagne. C'est-à-dire que le gouvernement britannique s'est fixé comme objectif l'éradication totale de la pauvreté des enfants. Et ce qu'on peut constater, c'est
mesurer, chiffrer,
avec
de façon tout à fait impartiale, voilà, objective, etc.
Et en France, ça n'a pas d'écho, ce genre d'initiative. En France,
il y a quand même un paradoxe, c'est que chaque année ou tous les 2-3 ans, je ne sais plus, la France élabore un plan national d'action en lutte contre la pauvreté, lutte contre l'exclusion. Qui le sait ? Qui, en France, en a entendu parler ?
Pourtant, la fracture sociale et l'exclusion, ce sont des termes qui reviennent constamment.
On ne peut pas vraiment dire que la précarité, l'exclusion, les mal logés, ce soient des thèmes dont on parle peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a une espèce de paradoxe qu'on s'explique assez difficilement. Dans le fond, c'est qu'il y a des bureaux, des ministères qui travaillent sur cette question, qui prennent le Thalys pour aller à Bruxelles en discuter avec leurs homologues irlandais, allemands, italiens et autres, pour discuter des objectifs qui sont pris dans ces plans nationaux d'action, des résultats obtenus depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Qui le sait ? Qui le sait ? Et la pierre est loin de nous, l'idée de jeter la pierre dans le jardin de ces administrations. Le problème n'est pas là. Le problème se situe à un niveau supérieur, c'est que les responsables politiques ne veulent pas, donc choisissent de ne pas mettre ce sujet sur la place publique, de ne pas aborder ce thème de la lutte contre l'exclusion, de la lutte contre la pauvreté, de façon tout à fait rationnelle. On a choisi d'autres modes d'approche, de parler de l'exclusion, de la précarité, de parler beaucoup du contrat de travail, de parler beaucoup du niveau du RMI, du niveau aujourd'hui du niveau de l'allocation chômage.
Et de manière parcellaire.
De manière exactement parcellaire, en fonction des responsabilités des uns et des autres, de ce qui va plaire à l'opinion. Mais on n'a pas eu, si vous voulez, d'approche finalement basique, de dire comment on mesure, petit 1, quels sont les objectifs, petit 2, comment on va y arriver, petit 3, est-ce qu'on y est arrivé 3 ans plus tard, petit 4.
Un retour d'expérience,
évaluation. Et alors, comme l'a dit Sarah, on est bien loin en France de la situation où le candidat à l'élection principale du pays se présente devant ses électeurs sur le thème « Aujourd'hui, nous sommes à X% de pauvreté des enfants. Mon objectif à la fin de la législature, c'est de le réduire à 0%. » On est très loin de ça en France. On a une culture, une approche des politiques publiques qui est beaucoup moins rationnelle que celle-là, malheureusement. Et notre première proposition, c'est de dire, inspirons-nous de tout cela quand même. Il y a des experts qui travaillent sur la question, d'autres pays le font, que nos responsables politiques s'engagent sur des objectifs de réduction de la pauvreté, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça ?
Vous dites, les MOOC ne fonctionnent pas très bien, mais ça ne fonctionne peut-être pas très bien avec la France, entre la France et d'autres pays de l'Union, la France étant très attachée à son propre modèle, etc. Mais est-ce que ça marche entre d'autres pays de l'Union ? Est-ce qu'il y a eu des preuves de réussite ?
Alors, ça ne marche pas.
Les bonnes idées ?
Tout à fait, parce que par exemple, on parlait de l'exemple du Royaume-Uni. Donc l'exemple du Royaume-Uni, Tony Blair, chez lui, s'est fixé des objectifs en matière de réduction de la pauvreté. Maintenant, force est de constater que Tony Blair n'a pas utilisé les indicateurs européens qu'il avait à sa disposition. Le Royaume-Uni se fixe des objectifs, c'est très bien, vérifie que ces objectifs sont atteints, c'est très bien également. Maintenant, la priorité du Royaume-Uni n'est clairement pas de l'expliquer à ses voisins européens et de leur permettre d'avoir des points de comparaison qui auraient été acceptés par tous. Donc le problème qu'on désignait comme un problème français, qui est celui d'une insuffisante démocratisation du débat sur la pauvreté, à mon avis, est un problème qui est largement répandu chez nos voisins européens.
Et pourtant, on s'est entendu sur un indicateur commun, ce qui est quand même un pas très important.
C'est un pas en avant. C'est un pas en avant. Et bien, il y a des consensus sociaux différents, il y a des consensus politiques différents. Et bien, outre-Manche, on considère que ce qui est important, ce n'est pas la pauvreté en général. Parce que les individus sont considérés comme davantage responsables de leur propre pauvreté que ce qui se passe sur le continent. En revanche, la pauvreté des enfants, c'est l'objectif politique prioritaire. Après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est pas à nous d'en juger. Il a été jugé, arbitré par les électeurs, que c'était ça qui était important. Eh bien, en avant, indicateur, objectif, compte rendu à la, mécanisme d'évaluation. Nous, c'est ça que l'on propose, quel que soit finalement l'objectif, l'indicateur choisi, peu importe. Mais qu'on ait une approche rationnelle. Voilà. Alors, première proposition de notre note.
L'utilisation des indicateurs européens, des indicateurs dits de Leken, reste quand même quelque chose d'important, puisque sans utilisation de ces indicateurs communs, il est difficile de parler d'échange de bonnes pratiques. Et ça serait quand même bien que la MOC serve au moins à cela. Si la MOC ne parvient pas à initier la convergence entre les États européens, ça serait bien qu'au moins elle permette aux différents États membres de voir ce qui marche chez leurs voisins. Pour savoir ce qui marche, eh bien, il faut parler, encore une fois, on revient toujours à cela, de la même chose. Et donc, il faut utiliser des indicateurs communs, se fixer des objectifs sur ces indicateurs-là. Pas seulement, il ne faut pas se limiter aux 18 indicateurs de Leken, mais il faut également les utiliser pour qu'il existe une véritable coordination et un véritable échange des bonnes pratiques au sein de l'Union européenne.
L'Union européenne a un peu les mains liées dans cette affaire. Parce que ce qui s'applique en matière d'exclusion sociale et de pauvreté, c'est le principe de subsidiarité. Et donc, les premiers responsables, ce sont les États membres, les États-nations, comme vous le disiez.
Et à titre personnel, vous iriez plutôt vers l'idée qu'il faudrait que les choses évoluent de ce point de vue-là, que les États se déchargent un petit peu, non ?
Enfin, je pense que ce n'est pas à nous d'en juger d'une part, et d'autre part, ça me paraît très improbable. Très improbable parce que aujourd'hui les grandes questions politiques et en particulier ce qui touche à la justice sociale, qu'est-ce qu'on considère comme juste, comme injuste, qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui ne l'est pas, on sort pas des frontières nationales sur ces sujets-là. Et pourquoi pas ? Il est bien qu'il en soit ainsi. On peut construire une Europe politique forte tout en gardant des consensus nationaux différents. Moi, je vois assez difficilement le jour où on aura le même consensus social que le Royaume-Uni sur ces affaires-là. En France.
En Europe continentale, peut-être un peu plus. Entre la France et l'Allemagne,
on a des philosophies relativement proches, en effet.
Alors, parmi ces voies d'amélioration, est-ce qu'on peut encore en distinguer quelques-unes, puisque vous avez donc mentionné cet indicateur commun qui représente un pas en avant, cette méthode qui devrait nous inspirer, dont le Royaume-Uni s'est inspiré, est-ce qu'on peut en distinguer quelques-unes ?
Absolument. Alors, on disait, en matière de pauvreté, c'est le principe de subsidiarité. Donc, les leviers sont essentiellement entre la main des États et l'Union européenne peut apporter beaucoup, mais les premiers acteurs sont quand même les États. Elle peut apporter beaucoup, on l'a vu, sur la mesure et sur la mutualisation, les partages des pratiques des uns des autres. C'est déjà fait, ça pourrait être mieux fait. En revanche, il y a tout un pan de politiques qui n'ont pas pour objet principal la lutte contre la pauvreté, mais qui rejaillissent de façon assez importante sur les taux de pauvreté, la situation des plus démunis. Et qui sont à 100%, ou en tout cas de façon assez majoritaire, entre les mains de l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est ? On peut en citer 2-3. Allez,
la PAC.
2,5. La PAC.
Les fonds structurels.
Les fonds structurels et les politiques de croissance. D'accord ? Alors, pour commencer, on va prendre la PAC, premier budget de l'Union européenne. D'accord ? Prenez le budget européen, c'est le premier poste, les premières dépenses européennes, c'est en matière de soutien agricole. Enfin, c'est les politiques dirigées vers le monde agricole. Alors, il y a plusieurs types de soutien. Il y a les soutiens qui directs, hein, qui vont directement dans les comptes, dans la poche des agriculteurs. Et puis, il y a les soutiens indirects par les prix, ce qui est historiquement, la PAC s'est construite comme ça. Il y a les prix mondiaux des cours agricoles, n'est-ce pas ? Et puis, il y a les prix d'intervention, c'est-à-dire les prix d'intervention européens, où, avec des mécanismes assez sophistiqués financiers, exactement, on soutient. On a des organisations communes de marché qui soutiennent les prix des matières agricoles en Europe si on les achète à l'étranger ou si on les vend depuis l'Union européenne. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Eh bien, la conséquence immédiate, c'est que on achète les matières agricoles, tous les acheteurs de matières agricoles les achètent plus cher que les cours mondiaux. Ça renchérit les biens alimentaires de façon tout à fait mécanique. Or, quelle importance ont les biens alimentaires pour les ménages pauvres, on a peu de peine à concevoir que le budget d'alimentation occupe une place plus importante au sein des ménages pauvres qu'au sein des ménages riches. En clair, un ménage pauvre dépense beaucoup plus de son budget pour l'alimentation qu'un ménage riche. Je crois que le rapport, c'est de 1 à 2 hein, entre ce que dépense un ménage pauvre et un ménage riche. Et tout ça pour dire que cet effet de gonflage, de soutien artificiel des prix agricoles a pour effet de peser davantage sur les ménages pauvres que sur les ménages riches. Et on appelle ça une taxe implicite, puisque c'est comme si sur chaque vente de matière agricole, sur chaque transaction de matière agricole, eh bien, on faisait payer au consommateur davantage que ce qu'on lui ferait payer si les règles de l'offre et de la demande du marché classique s'exerçaient. Et malheureusement, malheureusement, cette taxe implicite, eh bien, qui est de l'ordre de 30%, hein, je précise, c'est-à-dire que la surévaluation des prix des matières agricoles européennes est 30% plus élevée que par rapport aux cours mondiaux. Alors, bon, tout ça pour des raisons que l'on connaît bien, de soutien à la population agricole, de compétitivité, de coûts salariaux qui ne sont pas les mêmes en Europe et au sein des autres puissances agricoles. Tout ça a pour effet, malheureusement, de dégrader le pouvoir d'achat des ménages pauvres. C'est un argument qu'on a peu entendu, en tout cas nous, dans les recherches.
Il y a un effet de ricochet là.
Exactement, il y a un effet de ricochet qui pèse malheureusement pas de la même façon sur les ménages pauvres et les ménages moins pauvres. Et nous avons fait un petit calcul de coin de table pour essayer de évaluer évidemment de combien le ménage défavorisé est taxé du fait de cette surélévation des prix agricoles. Et bien on arrive à des pourcentages qui sont tout à fait loin d'être négligeables pour les ménages les plus pauvres de l'Europe des 15, par exemple au Portugal. On s'aperçoit que si on alignait les cours de la PAC sur les cours agricoles mondiaux, et bien ce serait un gain de pouvoir d'achat de 3,5%.
Ah oui, quand même.
Pour tous les ménages pauvres portugais. Donc, bon, on parle des coups de pouce du SMIC de temps en temps, par-ci par-là, 1% par-ci par-là. Là, ça fait 3,5% qui serait finalement redistribué de façon tout à fait automatique au sein des ménages pauvres. Et ça nous paraît assez considérable et ça fournit un argument de plus pour poursuivre la réforme de la PAC qui nous a pas attendu pour se réformer, heureusement, et qui va dans le sens d'une réorientation du soutien. On réoriente, on était sur un soutien des prix et progressivement, on passe de plus en plus vers un soutien direct, ce qui va dans le bon sens. Nous, notre recommandation sur ce point, c'est d'aller encore plus loin et de se rapprocher de petit à petit, de plus en plus, des cours mondiaux.
On arrive au terme de cette émission. Est-ce qu'on peut quand même faire un point sur les fonds structurels, Sarah Boucrel, après la PAC, comme piste d'amélioration?
Oui, tout à fait. Alors, les fonds structurels, très brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est encore du jargon un peu technocratique européen. Donc, en 1986, les États membres ont signé un nouveau traité, un traité qui s'appelait l'Acte Unique et qui a doté l'Union européenne d'un nouvel objectif qui était un objectif de cohésion économique et sociale, c'est-à-dire un objectif de rattrapage des régions les plus en retard en termes de revenus par habitant, de rattrapage vers la moyenne européenne. Donc, comment est-ce que l'Union européenne a cherché à atteindre cet objectif? En mobilisant ce qu'on appelle des fonds structurels, c'est-à-dire des fonds qui étaient alimentés par les différents États membres, essentiellement par les États membres riches, donc via leur contribution au budget européen.
C'est une politique de redistribution vers les régions les plus pauvres.
Voilà, sachant que c'était des politiques une politique de redistribution un peu particulière, puisque les fonds structurels visent à financer des projets de développement économique, et notamment des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport, routes, infrastructures ferroviaires, etc. Donc les régions économiquement les plus en retard en ont bénéficié. Notamment des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, des pays comme l'Irlande. On a du mal à penser aujourd'hui que l'Irlande a été un jour pauvre. Pourtant, il y a 20 ans, l'Irlande était un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. Eh bien, donc, ces pays ont bénéficié massivement de l'apport de ces fonds structurels. Par exemple, dans un pays comme l'Irlande, dans les années 80, les fonds structurels ont représenté jusqu'à 18% de l'investissement au sein de l'Irlande. Donc les fonds structurels ont représenté un soutien massif à ces pays Sont probablement pour beaucoup dans l'explication du rattrapage économique observé dans certaines zones. Donc l'Irlande, évidemment, c'en est l'exemple le plus éclatant, mais également des pays, un pays comme l'Espagne, qui a quand même tout à fait rattrapé son retard économique.
Vous suggérez de les renforcer, ces fronts structurels, c'est...
Alors la question se pose aujourd'hui dans des termes particuliers, puisque l'Union européenne s'est élargie et a accueilli 10 nouveaux membres. Donc la question est aujourd'hui, que faut-il faire vis-à-vis de ces fonds structurels ? Si on veut faire bénéficier les 10 nouveaux entrants de la même aide que celle dont ont bénéficié le Portugal, l'Irlande ou l'Espagne, ça veut dire qu'il faut augmenter massivement les montants qui sont consacrés à l'abondement de ces fonds structurels. Évidemment, un certain nombre de pays sont tout à fait réticents, notamment les pays qui étaient autrefois les premiers bénéficiaires de ces fonds structurels. Mais la question qui se pose aujourd'hui est une question, à mon avis, tout à fait fondamentale pour la construction européenne. La question, c'est qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut que l'Union européenne ne soit plus qu'une zone de libre-échange? Dans ces cas-là, il n'y aurait pas vraiment de responsabilité. Ça veut dire qu'il faut abandonner, si vous voulez, l'objectif de cohésion économique et sociale. Ou est-ce qu'on veut que l'Union européenne reste plus qu'une zone de libre-échange, se crée des responsabilités en termes de rattrapage des régions les plus pauvres? Et dans ce cas-là, si on pense que l'Union européenne est plus qu'une zone de libre-échange, ça va impliquer des efforts financiers massifs pour permettre aux 10 nouveaux entrants de nous rattraper dans les meilleurs délais.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sarah Boucrel et Pierre-Alain de Malray. L'Europe et la pauvreté, quelle réalité ? C'est une note de la Fondation Robert Schuman, justement pour éclairer ce principe de responsabilité, l'Europe face à ses responsabilités, face à la pauvreté, pour savoir tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut connaître pour justement se faire précisément une idée de ce que l'Europe pense de la pauvreté et de la façon dont elle entend la combattre. Merci à tous les deux. Donc c'est une note de la Fondation Robert Schuman, disponible aussi sur www.robert-schuman.org.